With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je suis plutôt quelqu'un de cartésien, pas franchement du genre à céder à la panique quand une rumeur se propage sur les réseaux sociaux. Et puis en novembre dernier, j'ai lu sur Twitter ce message qui disait
« Je sais de sources sûres qu'au moins une salle du MK de Quai de Loire est infestée de punaises de lit, que la direction est au courant mais ne souhaite pas intervenir. Voilà, vous savez quoi faire. »
Depuis ce tweet, mes sorties au cinéma sont un peu moins sereines. Entre-temps, la mairie du 19e arrondissement de Paris et la direction de la salle ont réagi, réglant a priori le problème en faisant intervenir une entreprise spécialisée. Pourtant, de nouvelles rumeurs ont continué de fleurir sur le web, évoquant une autre salle potentiellement touchée et ouvrant la voie à toutes les inquiétudes. Alors pour détricoter ce qui pourrait commencer à ressembler à une légende urbaine, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Une enquête qui fleure bon l'insecticide et la paranoïa. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Les punaises de lit, ce sont de petits insectes bruns et ovales, de 4 à 7 mm de longueur, à peu près la taille d'un pépin de pomme. Comme les moustiques, elles sont hématophages, c'est-à-dire qu'elles piquent et sucent le sang pour se nourrir, ce qui est source chez l'homme de fortes démangeaisons. Une femelle peut être fécondée plusieurs fois et pondre de 200 à 500 œufs dans sa vie. Elles prolifèrent en particulier dans les fauteuils ou les matelas et il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. En fait, il arrive même que ce soit elle qui se débarrasse de vous. C'est ce qui est arrivé à une de mes amies, Camille, pour qui tout ça est allé très très loin, et que les punaises ont carrément poussé à une grande décision.
Ça a démarré par des petites piqûres bien désagréables sur les chevilles et les poignets. Voilà, au début, je ne prêtais pas trop attention et c'est vrai que ça grattait beaucoup le matin et je me réveillais, je me demandais ce que c'était et je ne voulais pas croire aux punaises de lit car bien sûr, j'en avais entendu parler et j'ai fait une sorte de déni de réalité parce que je ne voulais pas que ça m'arrive jusqu'à ce que je vois une de mes amies et je lui dis « Regarde, c'est quand même bizarre, je lui montre mes poignets et j'avais des petites piqûres en ligne ». Et en ligne droite, et elle me dit « Camille, ça serait peut-être des punaises de lit. » Il se trouvait que son frère, qui habite pas du tout à Paris, venait d'en avoir. Donc voilà, c'est peut-être un fléau mondial, parce que son frère habite à Londres. Et elle me dit « Franchement, tu devrais peut-être bien regarder ton matelas, parce que bah, autant le savoir. » Donc ce que j'ai fait le soir même, là, j'ai eu la bonne idée de faire ça avant de me coucher. Donc ma chambre était dans l'obscurité. Et je soulève mon drap housse de mon matelas en ayant ma lampe de chevet allumée. Et là, qu'est-ce que je vois? Deux punaises de lit en train de se carapater, car ces petites bêtes n'aiment pas du tout la lumière. Et du coup, ben là, j'ai bien dû me rendre à l'évidence, regarder la réalité en face. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on voit des punaises de lit dans son lit à 1h du matin au moment de se coucher? Et ben, on dort pas très bien parce qu'on peut pas faire grand-chose. Et ce n'est que le lendemain où, en gros, j'ai mis mon appart un peu en quarantaine et pendant 3-4 jours, j'ai pas mis les pieds. Je me suis réfugiée chez une amie et là, c'est très bizarre parce que on se sent un peu pouilleux parce que là, beaucoup de sympathie en mode à ma pauvre, vient à la maison, bien sûr, mais il vient pas à la maison avec tes punaises de lit. Donc, je me suis retrouvée à... j'ai eu la chance, c'était l'été, donc j'avais pas trop de fringues sur moi et je suis arrivée chez mon amie et je me suis littéralement déshabillée sur son palier. J'ai mis toutes les affaires que je portais dans un sac poubelle hermétiquement fermé, on l'a foutu dans un coin et à partir de ce moment-là, qu'on a commencé la phase de désinfection et celle-ci a duré vraiment pas mal de temps.
C'est passé par quoi du coup cette phase-là de désinfection justement?
C'est passé par En fait, moi j'ai prévenu ma proprio qui a fait appel à une boîte spécialisée. Donc, bon, ça existe en région parisienne parce que c'est de plus en plus fréquent. Et c'est des gens qui viennent chez toi. Tu as tout un protocole à suivre. Et donc, tu es censé déjà vider toutes tes armoires, tes tiroirs, tes étagères, tout ce qui peut contenir du tissu là où serait susceptible de se cacher les punaises de lit. Et ensuite, eux, ils viennent. Et l'idée, c'est qu'ils puissent accéder à tous les recoins pour pulvériser un produit bien chimique. Et ensuite, donc, c'est liquide. Ils laissent reposer ça pendant 4 heures de façon complètement hermétique. Donc, il faut que l'appartement soit bien, bien fermé. Toi, tu ne peux pas y rester parce que ce n'est pas bon du tout. Et ensuite, il faut aérer pour pouvoir remettre les pieds dedans. Et donc moi, à la première intervention, on soulève mon matelas et effectivement, c'était là que se cachaient les punaises de lit. Il y en avait vraiment pas mal, quoi. Donc et là, c'est assez bizarre parce que du coup, tu te retrouves à acheter des housses. Parce que l'idée, c'est de pas contaminer tout le monde. Ouais. Voilà, dans un esprit un peu altruiste. Et du coup, je me suis bien sûr débarrassée de mon matelas le plus vite possible. Mais pour ceci, je l'ai emballé. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent juste pour des emballages que je jetais après. Donc, c'était assez frustrant. Je descends mon matelas, une première phase. Et donc, pendant 2 semaines, je n'ai pas habité chez moi. Et ensuite, je voulais rapidement retrouver un certain confort. Sauf que en fait j'ai vraiment campé pendant 2-3 mois parce que j'ai pas voulu racheter un matelas tant que je n'étais pas sûre de m'en être débarrassée, parce que je fais ça une fois mais pas deux. Du coup j'ai acheté un matelas mais je me le suis pas fait livrer jusqu'à ce que je sois sûre, que j'en ai le cœur net. Et il se trouve que, pour la petite histoire, à chaque fois que je voulais me faire livrer mon matelas, j'ai dû repousser au moins 2-3 fois la livraison parce que le jour J, à chaque fois, je découvrais soit une piqûre suspecte, soit une puce morte, soit une tache de sang, parce que voilà, ça souvent ça pique dans le sommeil et ça, quand on se retourne, on les écrase et donc elles sont pleines de notre sang, donc ça fait des taches de sang sur les draps. Enfin, bon, donc ceci a pris beaucoup de temps, et quand je dis que je campais, c'est que je campais vraiment quand j'étais sur un... J'ai acheté un matelas gonflable, heureusement électrique, mais sur lequel j'ai dormi pendant 3 mois.
Ça a aussi eu comme conséquence de te pousser à décider de changer d'appartement, tout simplement.
Voilà, parce que en fait, je me suis dit, au moment, c'était un peu pesant, parce que oui, j'en parlais, parce que voilà, c'était un truc qui m'arrivait. Au final, je me suis rendu compte que plus j'en parlais, plus ça me pesait, en fait. Enfin, ça faisait un peu une priorité dans ma vie, alors que en fait, ça n'en était pas une. Je me suis dit, autant se mettre dans un nouveau projet, quoi, un truc, ouais, ça a été le déclencheur, en fait. Et voilà, mais j'en suis à tel point que là, je déménage bientôt. J'ai trouvé un nouvel appartement, donc ça me pousse même à devenir propriétaire, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Mais j'en suis à prier un peu pour que j'en ai vraiment plus. Bon, après, j'ai vraiment plus de traces, mais pour te dire, j'ai même, depuis que j'ai mon nouveau matelas, j'ai carrément acheté une housse de matelas 100% hermétique, spéciale punaise de lit. Ça se fait aux États-Unis, ça m'a coûté 100 balles. Enfin, c'est que des trucs comme ça, on est obligé de penser à tout ça. Et là, je me dis, je vais déménager, donc hors de question que ça se reproduise. Et je me dis, je vais peut-être, pour déménager, prendre un camion frigorifique, laisser mes affaires dedans 36 heures. Et comme ça, je suis sûre qu'en emménageant, il n'y aurait plus rien. Parce que ce qui marche, c'est la chaleur, la haute chaleur ou les températures très basses, quoi. Donc...
Il faut avouer que c'est assez flippant. Nous, bosser sur ce sujet chez Programme B, ça nous est monté rapidement à la tête. Surtout à ma fidèle productrice, Lauren Bess, qui n'avait pas besoin qu'on la pousse beaucoup pour que les punaises l'inquiètent.
Je comprends le stress, moi aussi. J'ai l'impression que tout me pique et que le monde m'attaque. Mais genre, je vais plus...
Que le monde m'attaque, ah ouais, carrément.
Le monde m'attaque.
Non, mais je sais pas, genre je vais plus au cinéma. Enfin, genre ça me fait peur d'aller au cinéma parce que depuis cette histoire de tweet, moi je me dis, je rentre chez moi, j'enlève tous mes fringues, je les lave. Genre on sait jamais, par sécurité. Parce que quand tu réfléchis au fait qu'il y en a dans le cinéma, techniquement, il y en a dans tous les lieux publics. genre le métro, genre les bus que tu prends, qui sont genre les Ouibus, etc., genre les trains, et puis genre les salles de théâtre. Et donc littéralement, tu peux t'asseoir nulle part avant d'avoir le flip d'être piqué, et ce qui est mon cas.
Et du coup, tu sors plus de chez toi, Lorraine ?
Non mais si, bien sûr, mais juste comme je suis un peu parano, genre il y a des vêtements que je sacrifie. Genre je sais que c'est ceux-là que je vais mettre quand je vais au cinéma.
C'est énorme.
Du coup, je les lave genre à très chaud, tu vois, parce qu'il faut les laver à très chaud, puisque de toute façon, le très froid, c'est genre moins 50, donc je peux pas m'en occuper toute seule, tu vois, mais voilà. Mais c'est juste pour me rassurer, hein, genre rationnellement, je sais que c'est pas le cas, tu vois, mais...
Un petit doute dans ses yeux.
C'est l'enfer pour moi d'imaginer de devoir tout traiter un appartement, de devoir le quitter, de devoir brûler tout, ou alors juste c'est un enfer de se dire que c'est possible. Voilà.
Dans l'espoir de nous rassurer collectivement, nous avons donc entrepris de contacter un spécialiste, un vrai, un dur, un que les petites bêtes n'effraient pas. Le docteur Areski Izri, chef du service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, je lui ai demandé si on assistait à une recrudescence des punaises de lit dans les grandes villes.
Alors oui, il y a une recrudescence extraordinaire des punaises de lit dans les villes. Depuis le début des années 90, ça avait commencé. Mais alors, depuis 2010, c'est la folie, quoi. Il y en a partout.
Et pourquoi ? Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, les punaises de lit, elles ont toujours été sur l'homme depuis qu'il vivait dans les grottes. Quand on a quitté les grottes, elles étaient sur les chauves-souris, elles sont venues sur nous. Depuis, elles ne nous lâchent plus. Partout où on va, elles nous suivent. En France, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, jusqu'en 1900, les années 40 à peu près, il y en avait partout. Et puis il y a eu le DDT en 1939.
Qui est un insecticide.
Un insecticide, et puis beaucoup d'autres insecticides qui sont venus juste pendant les 30 glorieuses. Donc les gens avaient de meilleurs moyens. Et là, on a pratiquement éliminé, on croyait les avoir éradiquées, ces punaises de lit, hein. Et en fait, elles sont devenues résistantes, donc elles reviennent en force. Ajoutez à cela les voyages se sont bien démocratisés, tout le monde voyage, et donc les punaises voyagent avec nous, dans nos bagages. La France est la première destination mondiale de tourisme, cocorico, donc nous avons aussi les punaises qui viennent avec. La pauvreté qui revient. Les gens qui vont ramasser des matelas ou des meubles qui sont jetés dans la rue, ça peut être justement très souvent pour des punaises. Voilà un petit peu les trois causes qui expliquent le retour en force des punaises de lit aujourd'hui.
La maire de Paris a notamment récemment évoqué l'idée de supprimer certains pesticides et certains insecticides. Pour vous, ça peut potentiellement être un risque et pousser, on va dire, à la prolifération de ces bestioles ?
Alors, la maire de Paris, si elle décidait de supprimer les insecticides, elle aurait vraiment raison. Aujourd'hui, les punaises de lit sont résistantes à tous les insecticides. Donc, il ne sert à rien de mettre des insecticides. Bien au contraire, ces produits-là sont toxiques pour l'homme et ne tuent pas les punaises. Donc, je ne comprends pas pourquoi on va mettre des insecticides alors qu'on sait que ça ne va pas les tuer, les punaises. Et pire, les insecticides ont un effet irritant pour les punaises. Quand vous appliquez le produit quelque part, eh bien les punaises, elles vont bouger, elles vont quitter ce lieu pour aller à côté. Donc on favorise la prolifération ou le déplacement des punaises avec ça.
Mais alors comment faire pour lutter, pour éviter d'en avoir partout demain ?
Eh bien voilà, tout le problème est là, on ne sait pas encore trop comment faire. C'est un insecte qui vient chez vous pour vous piquer, se nourrir de votre sang. D'abord, la nuit, quand vous dormez. Donc, on va le trouver d'abord dans le lit. Donc, si on nettoie bien son lit, en lavant à 60, par exemple, tous les textiles, ou en les passant au sèche-linge, en passant l'aspirateur partout, et puis ensuite, on peut terminer ça avec la chaleur sèche. Aujourd'hui, il y a des appareils qui donnent de la chaleur sèche. Si on monte la pièce à 50 degrés pendant 2 heures, tout est mort, hein. Y a rien qui résiste, hein. Bon, il y a des appareils qui donnent beaucoup plus que ça de chaleur et il suffit de très peu de temps pour les tuer. 10 minutes, si on passe correctement l'appareil, tout est mort.
À ce stade de la conversation, je me suis souvenu de l'origine précise de notre psychose et du cas particulier des salles de cinéma. Au cours de mes recherches préalables, j'ai réalisé que le cas des salles MK2 à Paris n'était pas une première et que, au début des années 2010, par exemple, un mal similaire avait frappé les salles AMC à New York, qui est une ville particulièrement touchée par ce qu'on appelle là-bas les « bed bugs ». Un article du Guardian nous rappelle qu'à l'époque, d'autres lieux publics avaient été touchés par l'épidémie, notamment les locaux new-yorkais de Google, des magasins Hollister ou Victoria's Secret, et quelques théâtres à Broadway. Malgré tout, les salles de cinéma spécifiquement cristallisaient déjà pas mal d'inquiétudes.
Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs cas de punaises de lit dans des lieux publics, des salles de spectacle par exemple, des salles de cinéma, des salles de concert, et pas que en France d'ailleurs, aux États-Unis c'est également arrivé. Qu'est-ce qui fait que les punaises se sentent à leur aise, on va dire, par exemple dans une salle de cinéma ?
Alors les punaises de lit se sentent à leur aise partout où elles peuvent piquer quelqu'un. Elles ne se nourrissent que de sang, donc il leur faut des gens à piquer. De préférence la nuit, ou le soir, ou quand il fait sombre, comme ça on ne les voit pas, on ne les tue pas. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, elles vont s'installer absolument partout où l'homme va, en particulier avec ses bagages, avec un sac, une valise. Donc une salle de spectacle, oui, on peut y aller avec un sac.
Pourquoi un sac ? Qu'est-ce qui plaît aux punaises dans les sacs ?
Alors quand vous avez des punaises à la maison, elles se cachent partout, notamment dans les sacs ou les valises.
D'accord.
Donc elles vont s'installer partout où on dépose le sac ensuite. Que ce soit une salle de spectacle ou un moyen de transport, c'est-à-dire les avions, les bateaux, les trains.
Et dans le métro, par exemple, c'est imaginable ?
Pourquoi pas, dans le métro, c'est possible. Mais dans le métro, on fait pas trop on n'éteint pas toujours les lumières dans le métro. Donc elles restent un peu confinées dans leur sac, mais bon, elles peuvent sortir aussi, oui, c'est tout à fait possible.
Et pour les établissements accueillants du public, je reste sur mon exemple des salles de cinéma, comment est-ce qu'elles, elles peuvent s'en prémunir, justement ?
Ça, c'est pas facile. Là, je sais pas comment vous répondre. Peut-être que ce serait bien d'afficher quelque part, si vous avez des punaises, merci de le signaler, mais qui le fera ?
Ouais.
Personne, donc ouais. Je vois pas trop... Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est dans le futur, mais ça c'est pas un futur lointain. C'est la détection des punaises. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a des chiens renifleurs, ouais, qui vous disent où il y a des punaises.
D'accord.
Donc, bon, on va pas mettre un chien devant chaque salle de cinéma. Mais si vraiment on redoute les punaises, pourquoi pas ? Après, il y a peut-être un autre moyen de détection. C'est pas encore prêt, mais ça devrait l'être d'ici la fin de l'année, qui nous permettrait de détecter les punaises assez facilement.
Un moyen, vous pouvez m'en parler un petit peu ou c'est top secret pour l'instant ?
Pas trop. Je peux pas trop en parler, mais D'accord. C'est pratique. C'est très pratique.
D'accord.
Voilà, ça, on travaille dessus. Je pense que ça va être prêt pour la fin de l'année.
Ok. Et quand on est spectateur, en attendant le moyen miracle que vous êtes en train de développer, quand on est spectateur, par exemple, qu'on va au cinéma, je ne sais pas si ce soir je vais au cinéma et que j'ai ça qui me trotte en tête après notre rencontre, comment est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a des petits conseils de base, déjà, que je peux appliquer pour éviter de ramener des punaises de lit chez moi après ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de punaises que ça dans les salles de spectacle.
Ouais.
C'est plutôt exceptionnel. C'est vraiment rare, hein. Donc si vraiment vous allez au cinéma et que vous vous sentez que vous avez été piqué, vous vous examinez dès que vous êtes chez vous, vous regardez dans vos vêtements si c'est des punaises, il faut mettre ça au lavage ou au sèche-linge et le problème est réglé. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus affoler tout le monde. Ouais. Il n'y a pas un risque majeur. Hein. Ouais. C'est exceptionnel ça.
Vous comprenez, vous, la psychose qu'il peut y avoir autour de ces bestioles, l'inquiétude qu'il peut y avoir, peut-être le fantasme qu'il peut y avoir, vu que vous qui êtes en contact aussi avec un public qui est touché par ces bestioles ?
Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent ici demander de l'aide contre les punaises de lit. J'ai vu notamment une dame qui est arrivée et qui me suppliait « S'il vous plaît, docteur, sauvez mes enfants. Ils sont mangés tous les soirs par ces punaises. » Bien sûr qu'on comprend ce cri de détresse. Quand vous imaginez que dès que vous allez vous mettre au lit, vous éteignez la lumière, il y a ces petits vampires qui viennent sucer votre sang. Je crois que ça fait un petit peu flipper tout le monde. Hein.
Oui. Plus j'y pense et plus je me dis que la punaise de lit pourrait être l'animal totem de la paranoïa. Puisqu'on parle de cinéma, c'est d'ailleurs l'objet de Bug, un excellent film réalisé en 2006 par William Friedkin avec Ashley Judd et Michael Shannon. Le couple est reclus dans un motel miteux et y sombre progressivement dans la folie en se persuadant de l'existence de petits insectes qui s'infiltrent sous la peau.
Qu'est-ce que c'est ?
Là, tu le vois ? C'est un insecte.
Le cinéma, c'est un lieu obscur et clos, et donc propice à toutes les angoisses. Au début des années 2000, par exemple, une rumeur assez célèbre prétendait que des individus malveillants planquaient des aiguilles infectées par le virus du sida dans les sièges de cinéma, et que plusieurs personnes avaient ainsi été contaminées. Une variante tout aussi fausse de cette légende urbaine est récemment revenue dans l'actualité concernant des pompes à essence, des seringues, et là encore, le virus du sida. Mon confrère Fabien Lebouc, qui est journaliste à Libération, y a consacré un article. Je lui ai passé un petit coup de fil pour qu'il nous raconte.
Alors, on a travaillé sur une rumeur qui est très ancienne, qui tourne beaucoup sur Internet, de seringues qui contiendraient donc le virus du sida dans des pompes à essence. C'est un sujet qui est remonté jusqu'à nous, notamment via Facebook, bien sûr, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une photo qui circule en ligne d'une pompe à essence avec une aiguille dedans. Cette aiguille serait contaminée par le sida. C'est une photo qui est en fait assez ancienne. Ça ne s'est pas passé en France, contrairement à ce que disait parfois la rumeur. Ça ne s'est pas passé non plus dans tous les autres pays qui ont traité du sujet, donc la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, ça. Ça s'est passé aux États-Unis il y a très longtemps, et c'est en fait une photo qui est pour le coup authentique, d'une véritable seringue dans une pompe à essence, sauf que cette seringue, en fait, ne contenait pas le virus du sida. Ça a été documenté, c'est la personne qui a pris la photo qui a expliqué ensuite que la personne qui avait été piquée avait fait des analyses. Bref, il n'y avait pas le sida dans cette seringue. Et c'est, si on remonte vraiment au tout départ de cette rumeur, avant même l'existence de cette photo, qui a ressurgi donc, du coup, il y a quelques années, avant même l'existence de cette photo, il y avait déjà la rumeur de la présence du virus du sida dans des seringues, que ce soit dans les pompes à essence ou aussi dans les cinémas, dans les téléphones publics américains. C'est une rumeur qui circulait tout d'abord par mail, puisque avant les réseaux sociaux, il y avait des chaînes de mail. C'était les premiers vecteurs de circulation des fausses infos et des rumeurs. Et parmi ces mails remontent probablement à une époque assez ancienne. Et là, pour le coup, c'est très compliqué à dater.
Mais justement, ce qui rend le truc encore un peu plus crédible, on va dire, et donc potentiellement viral, c'est qu'il y a bel et bien une photo. Donc ça se base sur une toute petite part de réalité.
C'est ça. C'est que là, en fait, on est vraiment dans un cas de figure assez particulier où on a une rumeur qui existe, qui circule donc par les mails, par exemple. Et un jour, la rumeur prend d'autant plus corps, finalement, qu'une photo ou qu'un élément semble l'accréditer. Donc, on ne sait pas qui a placé cette seringue-là. On sait qui a pris la photo et on sait qu'effectivement, il n'y avait pas le sida dedans. Mais il y a une photo qui, effectivement, vient renforcer la rumeur. Et le mécanisme, de toute manière, le fonctionnement de toute rumeur, depuis la nuit des temps, ça a été que les gens y croient. En fait, il n'y a pas une rumeur qui circule mieux que la rumeur dans laquelle les gens croient. Les gens relaient ce qu'ils pensent vrai, ce qu'ils pensent être vrai. Et donc, du coup, là, on est sur un cas de figure où il y avait une rumeur, une photo est venue accréditer ça. Donc, forcément, ça n'a pu que renforcer le mécanisme de circulation de la rumeur. Et même encore aujourd'hui, on en retrouve donc des traces, puisque cette photo de la pompe à essence, qui est vieille pourtant, ressort régulièrement sur les réseaux sociaux.
Il y a comme ça beaucoup de rumeurs du web qui sont basées sur des espèces de légendes urbaines qui datent même d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux.
Il y a effectivement un certain nombre de rumeurs qui circulent et qui sont récurrentes sur le web. Parfois, ça dépend de l'actualité. Parfois, c'est juste des sujets qui tiennent à cœur aux gens. Parmi ces sujets, il y a des sujets typiquement de santé qui préoccupent beaucoup les gens. Il y a les sujets qui concernent les politiques, ce que gagnent les politiques, ce que font les politiques. Récemment, on voit ces derniers temps pas mal aussi de sujets sur les migrations, les sujets migratoires. Et en fait, les gens ont des a priori, des convictions sur ces sujets-là. Et c'est ce qui facilite effectivement la circulation de ces fausses infos.
Nous, on a bossé là dans cet épisode sur les punaises de lit. Je ne sais pas si tu avais suivi la petite psychose qu'il y avait eu après la détection de punaises dans un cinéma. Est-ce que c'est le genre d'histoire qui, de ton point de vue de vérificateur, on va dire, peut alimenter comme ça un peu de psychose, un peu de légende urbaine, notamment sur le web?
Oui, effectivement, on est sur on est là encore pour les punaises de lit, sur un sujet santé qui touche directement la vie des gens. Donc c'est un sujet sur lequel il y a déjà des préoccupations, et le seul fait qu'il y ait un cas avéré particulièrement marquant comme la présence de punaises dans un cinéma, ça contribue complètement à faire circuler cette psychose et à renforcer cette psychose qui préexiste finalement. Les faits avérés, quand les faits arrivent, là pour le coup, ça remet de l'huile dans le moteur, ça remet de l'eau dans le moulin et ça repart de plus belle, effectivement.
Être tenté de conclure cette enquête en citant des proches et vous dire que ce n'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils ne sont pas tous après moi. Mais retenons quand même un enseignement de toute notre aventure, il convient d'être vigilant, autant quand il s'agit de regarder où on s'assoit, que lorsqu'on découvre ou partage une information. Merci à Camille, à Lauren Bess, au docteur Areski Isri et à Fabien Lebouc pour leurs réponses et leurs angoisses. Un grand merci à David Honora qui a pensé et conçu cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.